Protestant boys are loyal and true, stout-hearted in battle and stout-handed too. The Protestant boys are true as of yore, and faithful and peaceful when danger is o'er.
Bienvenue dans l'émission Un pour tous, tous pour un avec Anne-Marie Born.
Amis auditeurs, auditrices, bonjour. Aujourd'hui, j'ai la joie et le plaisir d'accueillir Sœur Mireille. Sœur Mireille, bonjour.
Bonjour Anne-Marie.
Et avec vous, aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs aspects. Dans un premier temps, vous allez vous présenter à nos auditeurs.
Entendu. Sœur Mireille, je suis diaconesse de Reuilly, c'est-à-dire une communauté de sœurs protestantes qui existe depuis presque 200 ans. Je suis un peu âgée maintenant et je suis rentrée dans cette communauté un peu à reculons, il y a quelques années déjà. Je suis d'origine protestante, d'une famille protestante, mais j'ai connu l'école laïque. J'ai enseigné pendant quelques années dans l'école laïque et j'avais quitté la foi. Je l'ai retrouvée à travers un appel qui s'est décidé très lentement, un appel à découvrir la parole de Dieu, le Christ, à travers une tradition qui n'était pas la mienne, qui était une tradition orthodoxe. La tradition de la monastique orthodoxe et sa radicalité avec une sorte de quête du visage du Christ qui m'aurait pratiquement fait devenir ermite. Mais j'étais en même temps bien protestante. Donc j'avais cette vocation avec une confirmation des trois piliers de la vie religieuse que sont, avec des mots un peu difficiles à entendre aujourd'hui, l'obéissance et la relation à l'autorité, la sobriété de vie, la pauvreté, la mise en commun des biens, ne rien avoir pour soi, et la chasteté qui est aussi une sobriété de vie affective en quelque sorte. J'aime mettre ces trois engagements en relation avec les trois piliers de la vie humaine que sont l'avoir, le pouvoir et le savoir. L'avoir, avec comme réponse la mise en commun des biens, la sobriété de vie, le partage. Le pouvoir, avec le renoncement à la toute-puissance, dans une relation d'autorité et d'obéissance, qui est une relation d'égalité et pas de domination. Et le savoir, qui est en relation avec une chasteté de la pensée et des relations. Cet appel, j'ai cherché longtemps où il pouvait s'inscrire. Et la communauté des diaconesses de Reuilly est venue, a surgi en moi. J'ai mis du temps parce que je refusais beaucoup la dimension de soins, d'éducation. Il y avait toute une activité sociale que je voyais attachée à cette communauté, à toute communauté des diaconesses, au terme diaconesse. Mais voilà, souvent l'appel de Dieu se fait plus fort et convainc les êtres. Surtout qu'à cette époque, j'ai rencontré la communauté alors qu'elle était en plein développement de mise en évidence de sa dimension monastique, de son travail liturgique, de sa dimension communautaire. C'était un travail très extraordinaire de vérité, de créativité, d'élan de vie dans les années 80-2000. J'ai donc rencontré cette communauté qui m'a permis d'approfondir ma dimension monastique tout en vivant la spiritualité propre de cette communauté dont je voudrais parler maintenant dans son historique, dans sa création. La communauté des diaconesses de Reuilly est née en 1841 d'une intuition un peu étonnante d'un pasteur qui, devant la division du protestantisme de l'époque, en était très affecté et a eu la conviction, qu'il a partagée à une ancienne paroissienne, Caroline Malvezin, la conviction qu'il fallait restaurer un ordre religieux de femmes vivant ensemble dans l'obéissance et à une autorité, et que ce mode de vie pourrait devenir un ferment d'unité pour l'Église. Il y a donc une première dimension communautaire, vocationnelle, qui est au service de l'Église. Et dans le même temps, il y a un souci du monde. À l'époque, c'était les femmes sortant de prison. Donc ce pasteur imagine que ses sœurs, ses religieuses, pourraient être au service des besoins du monde de l'époque, qui étaient l'éducation et accompagner les femmes sortant de prison. Il fait part de cet appel, de cette intuition, à une ancienne paroissienne, Caroline Malvezin, qui était de Bordeaux, qui elle-même, déjà très engagée dans l'Église, cherchait la forme de sa vocation profonde. Elle disait « Si j'étais catholique, je serais religieuse, mais je suis très protestante. » Et cet appel d'Antoine Vermeil à Caroline Malvezin a déclenché en elle sa vocation profonde de fondatrice de communauté. Toute cette évolution, cet échange de lettres s'est produit entre le 6 février 1841 et le 6 novembre 1841, 9 mois, presque, enfin une parabole. Le 6 novembre 1841, Caroline Malvezin devient prieure d'une petite communauté qui va avoir cette racine, alors on emploie le mot de charisme, cette semence de la vie monastique, d'une part, et de ce souci du monde qui en est le fruit, qui en est qui en est la réponse, en quelque sorte. Il faut faire attention de ne pas mettre le souci du monde avant la vocation. Et je crois que ce charisme, ce double charisme de la communauté des diaconesses de Reuilly a toujours été préservé. Notre règle de communauté a une expression assez extraordinaire. Le temps préserve la semence jusqu'au jour de l'accomplissement. Et je crois que nous ne sommes pas dans l'accomplissement, nous sommes toujours dans le temps de la recherche. L'accomplissement sera de l'ordre de l'eschatologie. Mais ce double charisme s'est développé dans l'histoire de la communauté. Anne-Marie, est-ce qu'on met de la musique maintenant? Je voudrais introduire cette musique. J'ai choisi comme musique un CD Officium, qui est fait par l'ensemble de l'Iliade Ensemble, qui est un ensemble qui chante du grégorien du XIIIe, XIVe siècle, et de la musique de saxophone de Jan Garbarek, qui est un joueur de jazz. Et l'intuition de ces deux mouvements, c'était que le chant grégorien naît d'une interprétation, et le jazz naît aussi de ce mouvement de créativité. Et on rencontre ces deux mouvements de musique grégorienne et d'improvisation de saxo dans ce CD. Et il me semble bien illustrer ce qu'est la communauté des diaconesses de Reuilly et de ses œuvres.
Thank you.
Nous retrouvons notre invitée, sœur Mireille, qui fait partie des diaconesses de Reuilly. Et vous allez maintenant nous parler un petit peu de l'histoire de la communauté dans l'actuel d'aujourd'hui.
Alors, la communauté, comme je disais dans la première partie, a toujours eu le souci de l'Église, d'une part, et l'écoute des interpellations du monde. Et selon les temps, a mis plus ou moins l'accent d'un côté ou de l'autre, aussi par réaction ou par obéissance à ce que l'Église pouvait accepter de cette communauté religieuse monastique. Car jusqu'à aujourd'hui, dans l'Église protestante unie de France, pas plus que dans les autres églises de la communauté, il y a eu de travail théologique pour reconnaître ce mode de vie. Par contre, un travail de relations fraternelles et de service est très présent dans notre relation à l'Église. Je dois dire que la communauté, dès son origine, a rassemblé des sœurs de tous horizons du protestantisme. Et c'est toujours le cas actuellement, avec un tout petit élargissement. La communauté est donc rattachée directement à la Fédération protestante de France. Elle s'est rattachée dès que la Fédération a commencé à exister. Et elle est très engagée en tant que communauté religieuse dans le département de recherche communautaire ou de partage des communautés de la Fédération protestante de France. Un département qui rassemble quelques communautés de diaconesses, mais des communautés récentes, des communautés de couple, des mouvements de spiritualité, enfin tout ce qui est le ferment de vie spirituelle qui traverse aussi l'Église. Donc c'est une des premières responsabilités de la communauté, et je dis vraiment première, plus que les œuvres. Je vais parler maintenant des œuvres, qui sont des œuvres sociales, médicales, médico-sociales. Là, c'est un travail qui est partagé avec des laïcs, qui est délégué à des laïcs, tout en gardant un lien fécond pour soutenir et irriguer ce travail. Donc, la communauté a été à l'origine d'œuvres d'enseignement, de soins médicaux, d'un hôpital, je dis petit, c'est vrai, petit, mais qui a une certaine renommée, dans lequel se jouent des enjeux de la naissance, même de la procréation médicalement assistée, et de la fin de vie avec les soins palliatifs et toute la réflexion sur ce que signifie cette autorisation, jusqu'où pouvons-nous aller et accompagner la fin de vie. Les œuvres de la communauté se développent aussi et largement au niveau d'EHPAD, donc du grand âge, accompagnement du grand âge, mais aussi avec des maisons d'enfants placées par la justice de 0 à 20 ans. L'accompagnement de mineurs non accompagnés, puisque c'est une question qu'on rencontre beaucoup en Île-de-France. Des maisons d'enfants en difficulté psychique, des structures de formation pour des jeunes handicapés, mais aussi une école d'infirmières et une formation au métier de santé. Et au niveau social, un très fort engagement auprès d'une part de migrants par un accueil d'urgence, mais aussi des CADA, et une présence auprès de femmes battues, de gens de la rue. On a ainsi un petit service de soins à domicile pour les sans-domicile fixe. Se tenir aux marges, en fait. Je pense que c'est une dimension, c'est un appel adressé à l'Église et à tout chrétien. Répondre aux marges, parce que ensuite, l'État prend le relais, ce qui est juste. Aujourd'hui, ces établissements et la communauté sont rassemblés dans une seule structure administrative, la Fondation Diaconesse de Reuilly, qui a cette particularité d'avoir une communauté religieuse en son sein. et elle gère, mais plus que gère, elle anime, elle accompagne, elle anime, elle crée tous ces établissements au niveau d'une cinquantaine d'établissements avec presque 2000 salariés dans les régions parisiennes essentiellement, mais aussi dans le nord, à Lille, en Charente-Maritime, dans le sud-est, en Drôme-Ardèche, dans l'arc méditerranéen avec Saint-Raphaël, dans le Gard. La communauté elle-même, la communauté des sœurs, a un lieu tout à fait particulier. Alors, il y a d'abord la maison mère à Versailles et un lieu tout à fait singulier, le Moutier Saint-Voix en Haute-Loire, où se vit la vie religieuse et l'accueil de l'Église, hors de toute relation à des structures sociales ou médicales. Un lieu d'accueil, de prière, de repos, d'accompagnement précieux pour l'Église, si je considère tout l'accueil qui s'y est fait, qui s'y fait. Le défi de la communauté et de la prieure en particulier. Moi-même, j'ai été prieure pendant 12 ans. Le défi, c'est de tenir, de toujours animer ces profondeurs de la vie que constitue la liturgie, la prière personnelle, le dialogue personnel et intime dans le secret de chacune avec Dieu, de favoriser cela sans vouloir maîtriser, mais de favoriser cette profondeur, cette écoute de l'Esprit Saint, qui s'ouvre sur un accueil de l'Église, un accompagnement de l'Église. Donc, à la source, il y a cette spiritualité qui va peu à peu irriguer les questions du monde, que sont la rencontre des personnes en fin de vie, de l'enfant qui n'a plus de famille, du migrant qui a traversé des expériences incommensurables. Mais dans l'Église, il y a des gens qui souffrent aussi. Il y a des gens qui cherchent. Et est-ce que notre propre recherche, notre pauvreté, nous ne sommes pas nombreuses, notre dépendance à Dieu peut être le lieu du jaillissement d'une parole. D'une parole qui rejoint l'autre ou qui vient nous rejoindre nous-mêmes pour montrer un chemin. Je pense que dans la communauté des diaconesses, ce double appel, ce double charisme d'une vie religieuse, monastique, au service de l'Église, et donc à l'écoute du monde, est une sorte de vision qui est un peu idéale, mais qui tente de se faire au jour le jour, au jour le jour. La prieure, je parlais de la prieure tout à l'heure, la prieure est aussi vice-présidente de la Fondation. Et à ce titre, elle est traversée par les questions de la société. Elle est traversée par ce souci de l'humain, sans vouloir avoir la maîtrise, sans vouloir donner des réponses, mais en étant passerelle entre la vie au monde, qui est notre lieu premier, celui de la création, et la vie en Dieu, qui est la source qui vient irriguer cette création. Voilà, c'est peut-être un peu grand pour dire la modestie de nos actions et de nos présences. Cela, c'est l'idéal. Le quotidien est infiniment plus simple, infiniment plus fragile, traversé de pauvreté, de tensions, de disputes, car l'humain est là, et l'humain, c'est lui qu'il faut évangéliser, il ne faut pas le quitter. Donc ce travail humain, il est le quotidien de nos vies dans une grande histoire, celle de Dieu avec cette humanité.
Tout à l'heure, nous parlions d'un lieu source, je crois, dans votre communauté, qui est important à signaler, parce que c'est un lieu qui peut aussi donner envie à nos auditeurs aussi d'aller trouver ce genre de lieu.
Alors, nos deux, que ce soit Versailles ou Le Moutier, il y a un peu de lieu, il y a une dimension d'accueil très forte. Mais Versailles est dans la ville. Le Moutier-Saint-Voie est en Haute-Loire, dans la montagne, dans la campagne, près du Chambon-sur-Lignon, dans un pays dont la marque historique est très forte, la marque du protestantisme est très forte. Un lieu refuge, ce plateau de la Haute-Loire, ça a été un lieu refuge tant pour les protestants que pour les catholiques, en fait. Et les protestants et les catholiques se recueillaient les uns les autres quand ils fuyaient. C'est bien sûr un lieu d'accueil pour les juifs. Et nous avons été appelés au Moutier-Saint-Voie, il y a une trentaine d'années, pour animer la liturgie dans une petite église romane du XIe, XIIe siècle. Et puis, chemin faisant, nous avons été appelés, mais littéralement appelés par l'Esprit, à travers des appels qui étaient complètement improbables. Par exemple, un don qui nous permet d'acheter une maison, un don anonyme qui passe par l'évêché du Puy pour qu'on achète une maison, une dame qui nous fait légataire de tous ses biens, alors que rien ne nous appelle dans ce lieu, une dame qui nous dit « Vous serez mes légataires, légataires de mes biens » et on lui dit « Mais mademoiselle Robert, vous avez encore le temps. » Mais mademoiselle Robert est décédée dans l'hiver, dans son sommeil. Puis nous avons découvert que mademoiselle Robert n'avait pas fait de testament. Donc nous étions tranquilles. Mais toute sa famille, ses neveux, ils étaient 6-7, ont déclaré que mademoiselle Robert avait fait un testament oral, ce qui était encore valable dans ce pays où la parole prime sur l'écrit. Et nous voilà embarqués en communauté, avec beaucoup de réflexion, pour créer un lieu de type monastique, d'animation liturgique, avec une dimension œcuménique. Donc on a des petits ermitages, une hôtellerie, une participation à la vie liturgique et à la vie des sœurs, elles sont 7 actuellement, et une présence à l'église, à toute l'église, à toutes les communautés chrétienne du plateau, que ce soit les darbistes ou les catholiques, une petite communauté orthodoxe un petit peu plus loin. Voilà, une dimension œcuménique très forte. Le Moutier-Saint-Voie est un joyau.
Et du coup, cette chapelle, il y a un lieu de chapelle qui, du coup, où les gens aiment aller. Qu'est-ce qui, à votre avis, dans ce monde tumultueux, où il y a beaucoup de mouvements, de lumières, de paroles, qu'est-ce que peut apporter une chapelle à l'heure d'aujourd'hui ?
Ah, c'est vrai, on peut prier partout. Et cependant, l'humain, je dis bien l'humain, a besoin de déplacement. Il doit se déplacer pour qualifier, et il veut se déplacer pour qualifier ses actes. Et il y a toujours eu des chapelles dans la communauté, c'est-à-dire des lieux où on se sent appelé, il y a une cloche, appelé 3 fois, 4 fois par jour, pour quelque chose qui est de l'ordre du gratuit radical, le silence, la prière commune, personnelle, le chant des psaumes, l'écoute de la parole, la célébration de Dieu, toutes ces choses qui sont la forme, le contenant de la vie spirituelle. Car la vie spirituelle n'existe pas sans cette incarnation, que ce soit dans la vie communautaire, dans la vie familiale, dans la vie sociale. Cette incarnation de l'humain qui a besoin de manifester, de donner corps à cette vie spirituelle. C'est pas d'abord un lieu sacré, c'est un lieu profane, mais que je qualifie différemment. Et effectivement, nous avons des chapelles partout. À Versailles, c'est une chapelle très moderne. Après avoir été plus de 30 ans sous tente, nous avions une tente, nous avons maintenant une chapelle très moderne, en bois et en verre. Au Moutier, nous avons une chapelle. Alors, il y a cette église de Saint-Voix et une chapelle dans la maison qui est dans la grange. C'est une ancienne grange. Donc, c'est très beau d'avoir voilà, une chapelle dans une grange. Dans notre règle, le chapitre « Mise en commun des biens », je lis juste quelques phrases. « Que les lieux où nous vivons ouvrent à l'homme moderne surchargé des espaces d'ordre et de beauté. La nudité de l'essentiel et du suffisant, elles sont une parabole et un appel à nous d'y répondre. »
Merci. Vous vouliez nous lire une autre règle peut-être, sœur Mireille?
Un autre chapitre de notre règle, effectivement, qui me tient beaucoup à cœur, car je crois qu'il dit cette quête toujours renouvelée de ce que Dieu veut par nous donner au monde. C'est un chapitre qui clôt la section sur la vocation et l'engagement à vie. Deviens vivante et reste vivante. L'Esprit de Dieu t'invente à tout instant. Repousse la tentation de t'immobiliser dans les choses comprises, même parmi les plus grandes et les plus belles. Reçois chaque jour le don de la nouveauté de Dieu et de tes frères et de tes sœurs. Donne force et stabilité à ton engagement, mais ne l'enferme pas dans des formules ou des habitudes dépourvues de vie. Les cellules de ton corps à tout instant se modifient et l'ordre du monde se découvre sans cesse. Comment la vie divine que t'infuse l'esprit serait-elle moins créatrice? Avance vers ce Dieu toujours plus grand, ce Dieu sans frontières. Il t'a enclose dans des limites, mais leur espace est si vaste que tu n'en feras pas le tour sur cette terre. Laisse-toi gagner par l'admiration et connais avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur, la longueur et la profondeur de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance.
Merci beaucoup, sœur Mireille. Merci à Stéphane qui était à la régie et je vous dis au mois prochain. Au revoir.
Au revoir.